En cette année jubilaire qui se prépare, où nous ferons mémoire des 100 ans de la canonisation de Marguerite Marie, nous allons de plus en plus focaliser sur sa personne, sur sa spiritualité, sur tout ce qu'elle a vécu ici, sur ce qu'elle a écrit. Et il est bon de voir le chemin qui y conduit. Marguerite Marie représente effectivement, enfin les événements de Paris le Monial au XVIIe siècle sont un premier point culminant, il y en aura d'autres après, mais sont un premier point culminant par rapport au mystère du cœur de Jésus. Et c'est là d'ailleurs que le terme même de Sacré-Cœur commencera réellement. Mais bien sûr, il y a une marche d'approche. Le message de Paris le Monial n'est pas comme ça tombé du ciel. Il a une histoire. Il a une histoire spirituelle. Je ne vais pas reprendre ce que le père Guédas a dit hier soir, avant l'heure sainte. Disons juste en quelques mots que, après la révélation du cœur de Jésus par saint Jean, le disciple bien-aimé qui a reposé sur le cœur de Jésus, et qui a été témoin du transpercement du cœur au Golgotha, et qui en parle, et qui explore cet événement à sa manière, les pères de l'Église, donc toute la période post-apostolique, s'est concentrée sur le côté ouvert par la lance, mais ne prononce pas encore le mot cœur. On parle du côté ouvert qu'on observe extérieurement, avec énormément de profondeur, surtout de profondeur biblique. On y voit la naissance de l'Église, on y voit la naissance des sacrements, la source même des sacrements, le sang et l'eau qui jaillissent du côté de Jésus symbolisent les sacrements, l'eau du baptême, qui est en même temps l'eau de l'Esprit-Saint, et le sang qui est le sacrement de l'Eucharistie. On a fait aussi hier, je le rappelle simplement pour mention, le parallèle que font les pères de l'Église entre la naissance de l'Église, donc, au Golgotha, qui naît à travers le sang et l'eau du côté de Jésus, que saint Paul appelle le nouvel Adam, c'est ça qui est important, le nouvel Adam. Quant à l'Église, saint Paul, dans un autre passage, l'appelle l'épouse du Christ, ou la fiancée du Christ. Donc la fiancée du Christ, ou l'épouse du Christ, naît du côté ouvert du nouvel Adam, endormi sur la croix, ce qui nous ramène tout de suite au chapitre 2 de la Genèse, la création de la femme, où Dieu a suscité la première femme à partir du côté ouvert du premier Adam, endormi dans le jardin de la Genèse. Voilà. Donc les pères de l'Église ont fait un admirable travail, mais leur regard est encore extérieur. Ensuite, alors là, je schématise. Le père Guédas a été beaucoup plus explicite hier, parce qu'il faut que nous arrivions enfin à notre sujet. L'exploration, on pourrait dire sommairement, de l'intérieur du cœur de Jésus va se faire très progressivement. Une grande transition va se faire avec saint Bernard, puis saint François d'Assise que nous fêtons aujourd'hui. Saint Bernard, lui, voit les relations de l'Église avec le Christ, certainement comme des épousailles ou des fiançailles, et ce qui va être un peu le cœur de sa méditation du point de vue scripturaire et biblique, ça va être le cantique des cantiques. Le bien-aimé étant le Christ, la bien-aimée étant l'Église, ou aussi chacune de nos âmes. L'âme du baptisé épouse le Christ, le nouvel Adam. Alors il y a ce dialogue ineffable entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et là on entre vraiment dans les sentiments déjà. On entre profondément, on entre à l'intérieur. Avec saint François d'Assise, alors tout d'abord saint François d'Assise que nous fêtons aujourd'hui, sainte Marguerite Marie l'a vu dans une vision, un 4 octobre justement, le jour de sa fête. Et Jésus lui a révélé à quel point ce saint était tout proche, une grande proximité, une intimité avec son cœur. Vraiment une sorte de disciple du cœur de Jésus. D'où d'ailleurs les stigmates. C'est vraiment saint François d'Assise qui n'a pas demandé forcément le privilège des stigmates, Mais il a dans sa prière dit « Seigneur Jésus, fais-moi éprouver quelque chose de ta très cruelle passion que tu as voulu vivre par amour pour nous. » Et le Seigneur l'a exaucé. Il a vécu cette passion jusqu'à en être marqué dans son corps. Donc c'est vraiment un disciple du cœur de Jésus et qui déjà a des accents qui seront ceux de Marguerite Marie au XVIIe siècle en disant par exemple « L'amour n'est pas aimé. » L'amour n'est pas aimé. L'ingratitude. Mais c'est au XIIIe siècle que le virage, et c'est là maintenant où nous entrons dans notre sujet, va être amorcé. Là, on quitte l'extériorité pour entrer dans l'intériorité du cœur lui-même. Et cela avec trois femmes mystiques que je vais donc évoquer aujourd'hui. Les deux premières sont du XIIIe siècle. La troisième est du XIVe. Nous parlerons de Sainte Mechthilde de Hackenborn, de Sainte Gertrude de Helfta, XIIIe siècle, et enfin au XIVe siècle, la grande Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, une des quatre femmes actuellement maintenant docteurs de l'Église. Alors le virage est amorcé. Les temps le réclamaient. On verra comment Saint Jean en parle justement à Sainte Gertrude dans une révélation privée. Le temps est venu de mieux connaître les sentiments même qui sont à l'intérieur du cœur de Jésus. Le temps est venu d'entrer dans le cœur, de connaître son affection, sa passion pour nous, et de pouvoir y répondre, de recevoir les grâces pour y répondre vraiment comme un dialogue de l'amant avec l'amante. Et dans ce sens-là, comme l'a bien souligné hier le Père Guédas, il est naturel que ce soit plutôt des femmes qui ont bénéficié de ces expériences mystiques. Le dialogue entre la fiancée et le bien-aimé, ou la bien-aimée et la bien-aimée, est mieux symbolisé, d'une part par Jésus, dialoguant justement avec des âmes féminines, aptes à répondre avec des accents plus proprement féminins à cet amour. Le Père Guédas aussi a très justement, inspiré par un livre qu'il avait sous les yeux aussi, dit que les choses les plus sublimes même ne tombent pas non plus comme ça du ciel, elles ont un environnement culturel. Et donc c'est toute cette période, alors XIIIe siècle je ne sais peut-être pas encore, mais en tout cas dans le Moyen-Âge où fleurissent toutes ces histoires d'aventures sentimentales, de chevalerie justement. Eh bien, Jésus veut s'adresser à un peuple qui est déjà imprégné d'une certaine façon de ce climat des histoires d'amour. Mais alors bien sûr, en les sublimant, en les purifiant totalement, en leur donnant vraiment leur caractère, j'allais dire, définitif et justement biblique. Alors, Sainte Mechthilde de Hackenborn et du XIIIe siècle. Avant de donner quelques détails biographiques sur elle, c'est important, mais le plus important, ce sont ses paroles. Ces admirables prières que nous allons entendre, nous allons les dire, pas uniquement pour la beauté de ce qu'elles sont, mais pour bien mieux comprendre, c'est une marche d'approche pour comprendre finalement ce que Marguerite Marie a vécu. Lorsque les événements de Paris le Monial sont survenus, il faut se dire qu'il y a déjà tout un héritage derrière, un support, une fondation. Et l'âme ardente de mystiques qui ont voulu répondre à Jésus et à l'amour de son cœur. Alors voilà une très belle prière de Sainte Mechthilde de Hackenborn. Ô mon unique, je t'offre mon cœur comme une rose printanière. Que sa grâce, tout le jour, la grâce de cette rose, donc tout le jour charme tes yeux. Que son parfum ravisse ton cœur divin. Vous voyez, il y a immédiatement, pas seulement la réception, l'accueil d'un amour fou qui se révèle, qui se déclare, mais une soif ardente d'y répondre. Dans le même embrasement. ce que Jésus appellera plus tard avec Marguerite Marie, rendre amour pour amour. Donc, que le parfum de cette rose ravisse ton cœur divin. Je t'offre mon cœur pour que tu en uses comme d'une coupe, où tu pourras goûter ta propre douceur en tout ce que tu daignerais opérer en moi pendant cette journée. Je t'offre mon cœur comme une grenade exquise, digne de ta table royale. Veuille le prendre entièrement et que lui-même à son tour se délecte en toi seul. Alors voyez, toutes ces pierres, on appelle ça des pierres d'attente. Déjà, la soif de la mystique, de la bien-aimée, et que le bien-aimé prenne tout, et surtout son cœur. Elle ne veut plus posséder son cœur pour elle-même. Elle veut qu'il devienne la possession de Jésus. Tout cela, ça prépare cet événement mystique de la première grande apparition, alors au XVIIe siècle, à Marguerite Marie, où effectivement Jésus va demander son cœur à Marguerite Marie, elle va supplier de le prendre, elle va le supplier de le prendre, et son cœur va effectivement quitter son corps pour entrer et être immergé dans les flammes d'amour du cœur de Jésus. Donc vous voyez, dans tout ça, il y a une préparation. Donc que ton cœur, que mon cœur ne se délecte plus qu'en toi seul. Fais, je t'en supplie, qu'aujourd'hui toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions et ma volonté même se règlent sur le bon plaisir de ta volonté, ainsi soit-il. Alors, un détail sur, avant de prendre une biographie un tout petit peu plus détaillée, une expérience de Mechthilde à l'âge de 50 ans. Elle traversait à ce moment-là une grave crise spirituelle. Elle était unie à des souffrances, qui était unie, cette crise spirituelle, à des souffrances physiques. C'est dans cette situation qu'elle confia à deux sœurs amies les grâces spéciales à travers lesquelles Dieu l'avait guidée depuis son enfance. Seulement voilà, Mechthilde ne savait pas que ses sœurs, elles notaient tout. Lorsqu'elle l'apprit, elle fut profondément angoissée et troublée. Toutefois, le Seigneur la rassure en lui faisant comprendre que, ce qui était écrit l'était vraiment pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice du prochain. Alors maintenant, les détails que je vais donner sont tirés d'une audience générale, d'une catéchèse au cours d'une audience générale que Benoît XVI avait totalement consacrée à Sainte Mechthilde. Donc tout ce que je cite vient en fait de ce document. Mechthilde est donc née en 1241 ou 1242. À l'âge de 7 ans, avec sa mère, elle rend une visite dans un monastère et elle est si fascinée par ce milieu qu'elle désire ardemment en faire prier à l'âge de 7 ans. En faire partie. Elle y entra comme écolière d'abord et puis en 1258 devint religieuse dans le couvent. Elle se distingue par son humilité, sa ferveur, son amabilité, la transparence et l'innocence de sa vie et l'intensité avec lesquelles elle vit sa relation à Dieu, avec la Vierge aussi et les saints. Elle est dotée de grandes qualités naturelles et spirituelles, élevée comme ces qualités qui sont comme la science, l'intelligence, la connaissance, la voix d'une merveilleuse douceur. On l'appelait le rossignol de Dieu. Illuminée par le don divin de la contemplation mystique, Mechthilde composa de nombreuses prières. C'est une maîtresse de doctrine fidèle et de très grande humilité, conseillère, consolatrice, guidant les fidèles dans le discernement. Elle distribuait, dit-on, la doctrine avec une abondance telle que l'on n'avait jamais vue dans le monastère, une abondance telle qu'on n'avait jamais vu cette abondance-là dans le monastère. Et, dit la personne témoin de ces événements, que nous avons hélas la grande crainte que l'on ne verra plus jamais rien de semblable. Alors la personne qui écrit ça, évidemment, ne savait pas qu'il y aurait une Marguerite Marie un jour, puis plus tard une Thérèse de l'Enfant Jésus, une Thérèse d'Avila, etc. Les sœurs se réunissaient autour d'elle pour entendre la parole de Dieu, comme autour d'un prédicateur. Elle était totalement immergée par l'Écriture. Mechthilde était le refuge et le réconfort de tous. Elle avait un don singulier de Dieu, la grâce de révéler librement les secrets du cœur de chacun. Et beaucoup de personnes venaient la voir, pas seulement dans le monastère, mais aussi des étrangers, des religieux, des laïcs, attestaient que cette Vierge sainte les avait libérés de leur peine. Au cours de sa longue vie passée au monastère, Mechthilde est frappée par d'incessantes et intenses souffrances, auxquelles elle ajoute les très dures pénitences choisies pour la conversion des pécheurs. La prière et la contemplation sont l'humus vital de son existence. Dans la prière liturgique, Mechthilde accorde une importance particulière aux heures canoniques, c'est-à-dire aux heures du bréviaire, à la célébration de la messe et en particulier à la communion. Là, elle est souvent ravie en extase, dans une profonde intimité avec le Seigneur. Donc vous voyez cette dimension eucharistique qui sera absolument centrale dans les événements de Paris le Monial. Donc là, quand Marguerite Marie dit qu'elle est en adoration devant le Saint-Sacrement et qu'elle dit que là, son cœur est comme en son centre, ben nous avons ici vraiment des antécédents. Donc là, elle est souvent ravie en extase, dans une profonde intimité avec le Seigneur, dans son cœur très ardent et très doux, dans un dialogue merveilleux où elle demande des lumières intérieures, alors qu'elle intercède de manière particulière pour sa communauté. Voilà ce qu'elle écrit. « Si tu désires la véritable sainteté », c'est plutôt, elle met ses paroles sur les lèvres de la Vierge. La Vierge Marie lui dit, semble-t-il, dans une sorte de révélation ou de colloque intérieur, « Si tu désires la véritable sainteté, reste près de mon Fils. » Il est la sainteté même qui sanctifie toute chose. Mechthilde, dans son intimité avec Dieu, est présente, en fait, le monde entier. L'Église, les bienfaiteurs, les pécheurs, pour elle, dans sa contemplation, le ciel et la terre s'unissent. Alors, nous allons maintenant lire une prière un peu plus substantielle de Mechthilde, qui s'intitule « Ô très doux cœur de Jésus » et qui nous fait déjà plonger dans notre thématique. Ô très doux cœur de Jésus, mélodieux instrument de la Sainte Trinité, je vous salue. Ô cœur très aimant, précieux trésor où sont renfermées toutes les richesses des cieux, je vous salue. Mille et mille fois je bénis et révère votre bonté, parce que vous êtes la source de toute grâce et de toute miséricorde. Ô divin cœur de Jésus, soyez béni. C'est de vous qu'on jaillit et que jailliront les dons du ciel dans ces âmes pures et saintes que si souvent vous avez arrosées et enivrées de vos délices. Ô cœur de Jésus, cœur si digne d'être aimé, je veux ensevelir dans les profondeurs de votre miséricorde le lourd fardeau de mes négligences et de mes iniquités. Je veux offrir mes travaux, mes angoisses et mes misères. Je vous recommande ma vie et la fin de mes jours. Au cœur de Jésus, si suave, si doux et parfaitement aimable, offrez-vous comme une victime d'agréable odeur, en holocauste de suavité, sur l'autel d'or de votre réconciliation. et tirer de votre plénitude de quoi suppléer à l'insuffisance de nos actes réparateurs. Et vous, Trinité adorable, je vous loue, je vous glorifie et je vous bénis pour toutes les prérogatives dont vous avez comblé le très saint cœur de Jésus. Je vous l'offre respectueusement, avec toutes ses excellences, et je vous supplie de réparer tout le mal que j'ai commis, tout le bien que j'ai négligé de faire. Jésus, mon Dieu, je vous aime par-dessus tout. Amen. Vous voyez, cette prière enflammée nous conduit tout droit, j'allais dire, quelques siècles plus tard, aux révélations dont a bénéficié Marguerite Marie. C'est à 58 ans que Mechthilde parcourt la fin de sa route. 8 ans de grave maladie. Mechthilde nous confie au Sacré-Cœur de Jésus et à la Vierge. Elle invite à louer le Fils avec le cœur de la Mère et à louer Marie avec le cœur du Fils. Vous voyez déjà l'union des deux cœurs. Et voilà des paroles d'elle, et ça va être la conclusion de notre paragraphe, si je puis dire, sur Mechthilde. Je vous salue, ô Vierge très vénérée, dans cette douce rosée qui, du cœur de la très sainte Trinité, se répand en vous. Je vous salue dans la gloire et dans la joie avec laquelle vous vous réjouissez à présent dans l'éternité. Vous qui, la première d'entre toutes les créatures de la terre et du ciel, fut élue avant même la création du monde. Amen. Maintenant, nous allons aborder Gertrude, Sainte Gertrude de Helfta, appelée aussi Gertrude la Grande. Là, c'est pareil, nous allons d'abord commencer avec une prière pour entrer dans le climat de la spiritualité de cette grande sainte du XIIIe siècle, qui a été éduquée d'ailleurs par Mechthilde. Mechthilde, c'est vraiment sa grande sœur aînée. Car Gertrude est entrée, ça se faisait beaucoup à l'époque, à 5 ans au monastère, non pas déjà pour la vie religieuse bien sûr, mais pour y être éduquée. Une sorte d'école privée catholique de l'époque, si vous voulez. Et donc, et c'est Mechthilde qui a été sa maîtresse dès l'âge de 5 ans. Donc elle était formée vraiment à la spiritualité de Mechthilde. On ne peut pas les séparer. Je vous salue au cœur sacré de Jésus, source vive et vivifiante de la vie éternelle. Trésor infini de la divinité, écoutez bien, fournaise ardente du divin amour, fournaise ardente, que Marguerite Marie verra lors de la deuxième grande apparition, le côté ouvert de Jésus comme une fournaise ardente de charité. Donc fournaise ardente du divin amour. Vous êtes mon asile et le lieu de mon repos. Ô mon divin sauveur, embrasez mon cœur de l'ardente amour dont le vôtre est tout enflammé. Alors voyez, là, il y a vraiment une soif d'alliance et d'épousailles, au sens mystique du terme. Le cœur de Marguerite Marie qui va entrer dans le cœur de Jésus, qui va être tout embrasé d'amour, au point que pendant un temps, elle va pouvoir aimer avec l'amour même de Jésus. C'est une alliance. Donc, embrasez mon cœur de l'ardent amour dont le vôtre est tout enflammé. Répandez dans mon cœur les grandes grâces dont le vôtre est la source et faites que mon cœur soit tellement uni au vôtre que votre volonté soit la mienne et que la mienne soit éternellement conforme à la vôtre, puisque je désire désormais que votre sainte volonté soit la règle de tous mes désirs et de toutes mes actions, ainsi soit-il. Alors le don réciproque, là, qui caractérise d'ailleurs l'aspect sponsal d'une alliance, est pleinement exprimé ici, avec un accent nouveau. Là, elle explore vraiment plus encore l'intérieur maintenant, l'intérieur du cœur. Préparant ainsi la théologie et la dimension mystique de grands théologiens beaucoup plus tard, alors même au XXe siècle, Romano Guardini, qui voit dans le cœur de Jésus véritablement le lieu de notre béatitude, comme un lieu presque géographique. Le cœur de Jésus, dit-il, sera le lieu où ce sera le ciel. Il identifie le cœur de Jésus avec le ciel, avec la vie du ciel, avec des paroles très très belles. Identité de l'intérieur et de l'extérieur, parfaite transparence, l'amour, dit-il, comme état permanent de la création. L'amour comme état permanent de la création. Voilà ce que sera le ciel. Donc cette soif d'intériorité de ne faire plus qu'un. Avant de poursuivre avec quelques détails biographiques, mais surtout avec la grande révélation que nous connaissons déjà, mais que je vais un tout petit peu détailler, encore une prière qui s'intitule « Ô Jésus, fontaine de vie ». Alors là, c'est la contemplation un petit peu de l'eau qui jaillit du côté transpercé. « Ô Jésus, fontaine de vie, fais-moi boire de cette eau vive qui jaillit de ton cœur, afin que t'ayant goûté, je n'ai soif que de toi durant l'éternité. » Submerge-moi tout entière dans les profondeurs de ta miséricorde. Baptise-moi dans la sainteté de ta mort précieuse. Renouvelle-moi dans ton sang par lequel tu m'as racheté. Lave dans l'eau qui sortit de ton sein côté toutes les taches dont j'ai souillé l'innocence de mon baptême. Remplis-moi de ton esprit et possède-moi tout entière dans la pureté de l'âme et du corps. Ainsi soit-il. Alors c'est en 1256, en la fête de l'Épiphanie, donc un 6 janvier, que Gertrude vient au monde. On ne sait rien sur ses parents ni sur son lieu de naissance. Gertrude écrit que le Seigneur lui-même lui révèle le sens de ce premier déracinement. En fait, elle n'est pas restée sur son lieu de naissance. Je vous ai dit que dès l'âge de 5 ans, elle rentre au monastère. Je t'ai choisi pour ma demeure parce que je vois avec délice que tout ce que les hommes aiment dans... Je l'ai choisi, Gertrude, c'est une révélation donc. Je l'ai choisi pour ma demeure parce que je vois avec délice que tout ce que les hommes aiment dans cette élue, qui est Gertrude, est mon œuvre propre. Aussi, je l'ai exilé, en quelque sorte loin de tous ses parents, afin que personne ne l'aimât à ce titre, pas parce qu'elle a un bon père ou une bonne mère, etc., mais uniquement, et que je fusse le seul motif de l'affection qu'on aurait pour elle. On aime Gertrude uniquement par amour du cœur de Jésus. Donc, à l'âge de 5 ans, Gertrude entre au monastère et elle se forme là. Elle y passe toute son existence. Dans ses mémoires, elle rappelle que le Seigneur l'a prévenue avec une patience compatissante et une infinie miséricorde, en oubliant les années de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse passée, écrit-elle. Cette jeunesse, dit-elle, alors on ne sait pas en quoi ça consiste, dans un tel aveuglement, dit-elle à Jésus, que si vous ne m'aviez donné une horreur naturelle du mal, un attrait pour le bien avec les sages conseils de mon entourage, il me semble que je serais tombé dans toutes les occasions de faute, sans remords de conscience, absolument comme si j'avais été une païenne. Cependant, vous m'aviez choisi dès ma plus tendre enfance afin de me faire grandir au milieu des vierges consacrées dans le sanctuaire béni de la religion. Alors, elle va se distinguer d'abord par un zèle extraordinaire et surtout par des talents intellectuels. L'étude, la prière qui constitue son activité principale. En raison de ses qualités, elle excelle même parmi toutes ses sœurs. Elle fait preuve de grande ténacité pour consolider sa culture dans divers domaines. Donc, à l'intérieur même de sa vie religieuse, une extraordinaire formation et capacité intellectuelle. Seulement voilà, au cours de l'avant 1280, elle commence à ressentir un dégoût pour tout cela, même ce qui est cadré dans la vie conventuelle, tout cela, la culture, la recherche. Elle en perçoit la vanité. Et un 27 janvier 1281, quelques jours avant la fête de la purification de la Vierge, la fête de la purification de la Vierge, c'est ainsi qu'on appelait la fête de la présentation de Jésus au temple. Donc, vers l'heure des complis, le soir, le Seigneur illumine ses ténèbres. Avec délicatesse et douceur, il calme le trouble qui angoisse Gertrude. Trouble que Gertrude voit comme un don même de Dieu pour, dit-elle, renverser la tour de vaine gloire et de curiosité. Tour de vaine gloire et de curiosité élevée par mon orgueil, dit-elle. Orgueil insensé, car je ne méritais même pas de porter le nom et l'habit de la religion. Toutefois, c'était bien le chemin que vous choisissiez, ô mon Dieu, pour me révéler votre salut. Tendue donc vers un désir de communion sans fin, d'être unie à Jésus et à son cœur, Gertrude conclut sa vie au tout début du XIVe siècle, 1301 ou 1302, à l'âge de 46 ans. Gertrude écrit « Ô Jésus, toi qui m'es immensément cher, sois toujours avec moi, pour que mon cœur demeure avec toi et que ton amour persévère avec moi sans possibilité de division, et que mon trépas soit béni par toi, afin que mon esprit, libéré des liens de la chair, puisse immédiatement trouver le repos en toi. » Alors maintenant, nous allons venir à cette grande révélation privée dont a bénéficié Gertrude et qui est comme le fondement, la porte d'entrée du message de Paray-le-Monial, en fait, d'un point de vue historique, ou disons d'histoire spirituelle ou mystique. Alors, elle a bénéficié d'une apparition de Jésus et de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Comme elle était, Gertrude, donc, c'est une narration, comme elle était, selon sa coutume, tout entière à sa dévotion, le disciple que Jésus aimait si bien, et qui pour cela doit être aimé de tous, donc Saint Jean, lui apparut. Celle-ci lui dit « Et quelle grâce pourrais-je obtenir, moi, chétive, en votre très douce fête ?» Donc ça a dû se passer donc le jour de la fête. Je rappelle que la première grande apparition à Marguerite Marie était le jour de la fête de Saint Jean l'Évangéliste, un 27 décembre. Alors, Saint Jean lui répond, « Viens avec moi, tu es l'élu de mon Seigneur, reposons ensemble sur sa poitrine, dans laquelle sont cachés tous les trésors de toute béatitude. » Et la prenant avec lui, il la conduisit auprès de notre tendre Sauveur, la plaça à droite et se retira pour se placer à gauche. Et comme ils reposaient ainsi tous deux avec suavité sur la poitrine du Seigneur Jésus, le bienheureux Jean, touchant du doigt avec une respectueuse tendresse la poitrine du Seigneur, dit « Voici le Saint des Saints qui attire à soi tout le bien du ciel et de la terre. » Dans d'autres enseignements qu'on peut trouver sur le site des sanctuaires, j'ai amplement commenté déjà cette parole. Je n'y reviens pas, je rappelle le Saint des Saints, simplement c'est l'endroit le plus sacré du temple, de ce qui était le temple de Jérusalem. le lieu de l'adoration de la présence invisible, la Shekhinah. Donc le lieu vraiment saint par excellence. Et donc si on considère Jésus comme le nouveau temple de Dieu, un temple non fait de main d'homme, on peut dire effectivement avec saint Jean que son cœur ouvert est le saint des saints qui attire à soi tout le bien du ciel et de la terre. Alors il ajouta, saint Jean, « Je t'ai placé à l'ouverture du cœur divin afin que tu puisses en tirer aisément la douceur et la consolation que, dans son bouillonnement perpétuel, l'amour divin répand avec impétuosité sur tous ceux qui le désirent. » Alors maintenant vient l'événement. Elle éprouvait une jouissance ineffable aux pulsations très saintes qui faisait battre le cœur divin sans interruption. Donc elle entend, elle perçoit les battements du cœur de Jésus. Alors elle dit à saint Jean, est-ce que vous n'avez pas, disciple bien-aimé de Dieu, senti le charme de ces suaves pulsations qui ont pour moi en ce moment tant de douceur? Ne les avez-vous pas sentis lorsque vous reposiez à la Sainte Seine sur cette poitrine bénie? Alors il répondit, j'avoue que je l'ai senti et ressenti. C'est saint Jean qui parle. J'avoue que je l'ai senti et ressenti, et la suavité en a pénétré mon âme. Ainsi que le doux hydromel imprègne de sa douceur une bouchée de pain frais. Bon, ça c'est l'époque. On va adapter. On va dire, si on veut connaître quelque chose de la suavité du cœur de Jésus, il faut acheter les confitures vendues par les chapelains, par les sanctuaires. Donc, il faut moderniser notre perception mystique. Lui, il parle donc d'hydromel trempé dans une bouchée de pain frais. Bien. De plus, mon âme en a été aussi échauffée que le devient une chaudière bouillante au-dessus d'un feu ardent. Ça, c'est saint Jean qui parle, en disant ce qu'il a ressenti lorsqu'il a perçu les battements du cœur de Jésus. Alors, avec une certaine audace, tendre mais ferme, Gertrude lui dit, « Mais alors, pourquoi donc avez-vous gardé là-dessus un silence si absolu, que vous n'avez jamais rien écrit, si peu que ce fût, qui donna à entendre cette suavité des saintes pulsations? Au moins, pourquoi vous n'en avez pas parlé pour le profit de nos âmes ?» Donc c'est presque un reproche. Et de fait, chapitre 13 de saint Jean, il n'est absolument pas question de tout ça. Il est simplement que le disciple a reposé tout près de Jésus et qu'il s'est renversé sur sa poitrine pour lui poser la question. « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Alors c'est là qu'il lui fait la réponse qui éclairera tout l'avenir mystique de l'Église et de l'histoire, et des nécessités de l'histoire. Il commence par lui dire, « Ma mission, c'est saint Jean qui parle, ma mission était de présenter à l'Église, dans son premier âge, sur le Verbe incréé de Dieu le Père, une simple parole qui suffirait jusqu'à la fin du monde à satisfaire l'intelligence de la race humaine tout entière. » En d'autres termes, pour simplifier, Jean semble dire, ma vocation n'était pas d'être mystique et de décrire des battements du cœur de Jésus, ma vocation était celle d'un théologien. Ma vocation était de nourrir l'intelligence humaine pour qu'elle puisse percevoir un tout petit peu ce mystère qu'il proclame dès le début de son évangile, et le Verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Donc c'est ça, il est d'abord théologien. Donc il dit, voilà, ce n'était pas ma mission de parler des battements. Dans le premier âge de l'Église, la première urgence, c'était de satisfaire l'intelligence de la race humaine, dit-il, sans toutefois que personne parvint jamais à la pleinement comprendre. Effectivement, le mystère de l'incarnation n'est pas à la mesure de l'intelligence humaine. On peut l'approcher, on ne la possédera jamais, sinon dans l'éternité. Mais alors voilà ce qu'il dit, ce qui est important. Mais de dire la suavité de ces pulsations a été réservée pour les temps actuels. Là, il parle au XIIIe siècle. Afin qu'en entendant ces choses, se réchauffe le monde vieillissant, dont l'amour s'alanguit. Voilà, déjà au XIIIe siècle. D'où la nécessité, d'ailleurs, d'une étape nouvelle dans la contemplation du cœur de Jésus. D'une étape que je dirais, sans, il n'y a aucune notion péjorative dans ce, ou réductrice, d'une étape affective, sentimentale. Pas seulement comme les pères de l'Église, théologiques et ecclésiologiques et scripturaires, admirablement, non, une étape vraiment de cœur à cœur, sponsale. De dire la suavité de ses pulsations a été réservée pour les temps actuels, afin qu'en entendant ces choses, se réchauffe le monde vieillissant dont l'amour s'alanguit. Alors on peut dire que le message de Parilmonial est la réalisation la plus plénière de cette sorte de prophétie de Saint Jean. Au XVIIe siècle, c'est dans un monde très tourmenté déjà, en plus dans un catholicisme ravagé par les dommages causés par le jansénisme au XVIIe siècle. Le jansénisme qui était très très à la mode, sur la cour de France, à Paris, dans les milieux intellectuels, etc., et contre lesquels les papes ont toujours lutté, et les jésuites aussi, le message de Parilmonial est devenu une véritable antidote au jansénisme. Seulement pour ça, il fallait un discours, des paroles, des véritables déclarations d'amour, comme dans les romans de chevalerie. Et c'est ce qui va se passer à Parilmonial. Ce sont des déclarations d'amour. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi en particulier et pour tous les hommes qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande. » Ou alors, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser ou se consumer pour leur montrer son amour. Et puis la plainte du bien-aimé est de tant et tant, il ne reçoit que ingratitude, indifférence, froideur. » Donc voilà. La suavité de ses pulsations a été réservée pour les temps actuels, afin qu'en entendant ces choses, se réchauffe le monde vieillissant dont l'amour s'alanguit. Alors là, par contre, une sorte de réchauffement planétaire, mais positif, pas dangereux, spirituel, pour la froideur autrement redoutable du cœur humain, la dureté du cœur humain. Alors, je ne sais pas si Jean-Paul II avait ces paroles de Saint Jean à Gertrude en tête, ou tout cet épisode, c'est probable, ou s'il avait un autre passage en tête dans Horietis Aquas, qui est la grande encyclique de Pie XII, qui parle lui aussi des battements du cœur. Les battements du cœur, dit-il, qui ont cessé avec la mort de Jésus, mais qui, dès qu'il surgit du tombeau, a recommencé à battre, dit-il, et ne cessera plus jamais de battre d'un mouvement serein et imperturbable. Alors Jean-Paul II dit dans sa lettre apostolique qui s'intitule, je dis la traduction française, « Reste avec nous Seigneur », en vue de l'année eucharistique 2004-2005, il dit qu'on doit prendre des longs temps au pied du Seigneur. C'est l'adoration. Jusqu'à, dit-il, presque entendre les battements de son cœur. Jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Donc c'est très actuel. Et Jean-Paul II sait très bien, alors il a été immergé au cœur de l'actualité la plus brûlante, la plus urgente qu'on puisse imaginer, donc dans l'après-concile et l'après-guerre et tout ça, donc c'était, il sait mieux que personne à quel point le monde actuel a besoin d'être réchauffé, pas n'importe comment, mais par l'amour même du cœur de Jésus et par les battements de son cœur. Parce que les battements du cœur, si on en fait une petite contemplation, analyse mystique, dans chaque battement du cœur de Jésus, il y a d'une part l'adoration parfaite, le culte qu'il rend à son Père divin, et d'autre part l'amour infini, la compassion, la miséricorde, la soif de salut qu'il porte à chacune de nos âmes et à toutes les âmes de tous les temps. Donc chaque battement du cœur de Jésus est rédempteur. Source de salut. Donc, en entendant ces choses, le monde vieillissant a besoin de se réchauffer parce que son amour s'alanguit. Voilà le grand apport de Sainte Gertrude. Alors, ayant exploré ce cœur, voilà ce qu'elle dira dans un texte célèbre mais et magnifique. Le divin cœur est comme un trésor où sont renfermées toutes les richesses, comme une lyre touchée par l'Esprit Saint dont les sons réjouissent la très sainte Trinité. On croirait presque entendre Élisabeth de la Trinité, la musicienne. Et là, Gertrude dit ça, comme une lyre touchée par l'Esprit Saint dont les sons réjouissent la très sainte Trinité. C'est amusant qu'on contemple la Trinité, il y a souvent des analogies musicales qui viennent. Par exemple, Saint Ignace de Loyola aussi a eu une fois manifestation bouleversante de la Sainte Trinité. Il dit qu'il a vu comme trois touches d'un clavier, vous savez, qui forment un accord de trois. C'est une source abondante, le cœur de Jésus, dont le courant va porter le rafraîchissement aux âmes du purgatoire, les grâces fortifiantes aux âmes qui militent sur la terre, et ces torrents de délices où s'enivrent les élus de la Jérusalem céleste. Là, elle fait sûrement allusion, elle ne le cite pas, à Isaïe. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. C'est un encensoir d'or, le cœur de Jésus. C'est un encensoir d'or d'où s'élèvent autant de divers parfums d'encens qu'il y a de races d'hommes pour lesquels le divin Sauveur a souffert la mort de la croix. C'est un autel sur lequel les fidèles déposent leurs offrandes, les élus leurs hommages, et sur lequel le prêtre éternel s'immole lui-même. C'est une lampe suspendue entre ciel et terre. C'est une coupe où s'abreuvent les saints. Et à la dernière invocation des litanies du Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus, délice de tous les saints. Et Jean-Paul II, comme Guardini, avec d'autres mots, dit que le cœur de Jésus sera l'espace vital de tous les bienheureux, le lieu où toutes les aspirations de leur cœur seront pleinement rassasiées, et pas pour un moment, pour l'éternité. Donc, c'est une lampe, une coupe, pardon, où s'abreuvent les saints. En lui, dans le cœur de Jésus, la prière du Seigneur, le Notre Père, a été conçue et élaboré. On ne peut pas séparer le Notre Père du cœur de Jésus. De même qu'on ne peut pas séparer la grande prière sacerdotale du Christ, chapitre 17 de Saint Jean, de son cœur. On peut dire que c'est la parole même de son cœur. C'est l'héritage de son cœur. C'est son testament. C'est la dernière prière qu'il fait avant d'entrer dans la Passion. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, etc. Voilà. Tout le chapitre 17. Et donc le Notre Père en est un petit peu comme la synthèse. C'est lui, le cœur de Jésus, qui supplée à tous les hommages que nous avons négligé de rendre à Dieu. Donc voilà pour Sainte Gertrude. Une étape primordiale, un jalon primordial dans le chemin qui nous conduira à travers d'autres saints dont nous parlerons au cours des enseignements qui viennent, mais qui nous conduira peu à peu aux révélations du Sacré-Cœur. Alors la dernière sainte que je voudrais évoquer sur ce chemin est du XIVe siècle. Sainte Catherine de Sienne, donc une docteure de l'Église, elle était tertiaire dominicaine. Et si elle est docteure de l'Église, c'est à cause de ses connaissances spirituelles et mystiques. Certes pas à cause de son orthographe, où il y a plein de fautes. Lorsqu'elle rédige les dialogues, enfin elle n'était même pas capable de les rédiger, elle les a dictées. Mais alors, quelle connaissance spirituelle et théologique profonde. C'est une théologienne. Mais elle n'avait pas puisé dans les livres cette prodigieuse science, justement parce qu'elle n'avait pas étudié. Toute sa science lui venait des inspirations qu'elle recevait de Dieu. C'est l'une des plus grandes mystiques de tous les temps, dit l'auteur, là je ne cite pas Benoît XVI, là. Je cite le père Véniche, un jésuite, qui a fait ce livre admirable qui s'intitule « Célébration du cœur du Christ ». En même temps, elle menait une vie intense d'apostolat et de charité. Elle aidait les condamnés à mort, soignait les malades et les pestiférés. Elle parcourt l'Italie, alors en pleine guerre civile, faisant la paix entre les villes rivales. Et enfin, elle rendit le plus grand service qui soit à l'Église catholique en persuadant le pape d'abandonner définitivement le palais d'Avignon et de retourner vivre à Rome. Cette femme, à la fois grande contemplative et ardente apôtre, qui vivait 300 ans avant Sainte Marguerite Marie, fait déjà de nombreuses références au cœur de Jésus dans ses écrits. Elle eut des visions et autres faveurs semblables à celles qui furent adressées à Sainte Marguerite Marie. Par exemple, il lui sembla que le Seigneur avait échangé son cœur avec le sien. Cette impression est l'expression symbolique de son union intense au cœur du Christ dans un parfait amour. Alors nous allons entendre dans un instant un extrait des dialogues de Catherine de Sienne, écrit justement, c'est donc pas écrit par elle, écrit par son confesseur, le bienheureux Raymond de Capoue, sous la dictée de la Sainte. Et le Seigneur, on va voir ça, explique à quel point l'amour dont son cœur est rempli est plus grand que n'a pu le montrer extérieurement aucune de ses souffrances. C'est en fait un texte que j'ai très souvent cité dans mes enseignements, mais là on va un tout petit peu plus l'explorer. Auparavant, je voudrais quand même citer une parole de Catherine de Sienne qui est très théologique, d'une sobriété, mais qui ouvre un abîme de contemplation. Elle dit que le cœur de Jésus, c'est le lieu de l'union des deux natures du Christ, divine et humaine. C'est dans le cœur que cela se noue. Le cœur rempli qui est le tabernacle de l'amour trinitaire, un cœur rempli de l'amour divin, fournaise ardente de charité, et comme dit Jean-Paul II, c'est la vive flamme trinitaire qui brûle dans le cœur de Jésus, l'étreinte du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, cette étreinte n'étant autre que l'étreinte de feu, dit Jean-Paul II, de l'Esprit-Saint. Et il dit ça en commentant l'invocation de la litanie qui s'intitule « Cœur sacré de Jésus, fournaise ardente de charité ». Donc, Catherine de Sienne dit qu'en vérité, le cœur de Jésus est le lieu non seulement de l'amour trinitaire, de l'union des trois, dans la dimension divine, mais que c'est aussi le lieu de l'union des deux natures, divine et humaine, en l'unique personne du Christ, ce que les théologiens appellent l'union hypostatique, hypostase signifiant en grec personne, la personne. Et de fait, l'amour divin et l'amour humain se rencontrent pleinement, et ce n'est pas seulement une rencontre, c'est une étreinte réelle dans le cœur de Jésus. La puissance de son amour divin opère les miracles. La tendresse ineffable de son amour humain opère, sont la source de toutes ses attitudes de compassion, d'humilité, de tendresse, qui vont le conduire jusqu'à la passion. Donc le cœur de Jésus est le lieu de l'union des deux natures. Alors, je l'ai souvent dit, mais je le répète encore une fois, dans quel passage de l'Évangile cela se vérifie au plus haut point? C'est dans l'épisode de Thomas, Jean chapitre 20. Lorsque Thomas entre en contact avec le côté, « Mets ta main dans mon côté », dit Jésus, alors là, il découvre tout. Il ne reconnaît pas seulement Jésus de Nazareth qui a été crucifié et qui est ressuscité, et qui montre ses plaies qu'il peut toucher, mais comme disent les pères de l'Église, il touche à l'homme alors il rencontra Dieu. Puisqu'en Jésus, les deux ne font qu'un. Il touche à l'homme, il rencontra Dieu, d'où son exclamation, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors maintenant, les paroles de Catherine de Sienne dans le dialogue. Un jour, je demandais au Seigneur, 12 agneaux immaculés, vous étiez déjà morts sur la croix, quand votre côté fut percé par la lance. Pourquoi donc avez-vous décrété qu'il fût alors frappé et si cruellement blessé ? Alors d'abord, la question est déjà très pertinente sur le plan théologique. Elle a bien compris qu'au moment où Jésus meurt, tout est accompli. Il ne manque plus rien pour notre salut. Au moment où dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « c'est achevé » ou « tout est consommé », le salut est réalisé. Il a livré son corps, il a versé son sang, il remet l'esprit, c'est ce qui est dit dans Saint Jean, il rendit l'esprit, et en plus, ça c'est propre à Saint Jean, il nous a remis à sa mère. Il nous a donné une mère, la sienne, pour être la nôtre. Donc il ne manque absolument plus rien. Alors Catherine de Sienne pose la question, quel est donc le sens de cet événement de surcroît qui vient après la mort? C'est comme si elle disait, qu'est-ce que ça ajoute? Pourquoi était-ce nécessaire? Alors Jésus va lui répondre. Et voici ce qu'il dit. Pour plusieurs motifs, dont voici le principal. Mon amour pour les hommes était sans mesure, tandis que les souffrances et la torture que j'endurais étaient limitées. Alors là, je fais une parenthèse, on pourrait se demander où est la limite, parce qu'on a l'impression plutôt que la passion de Jésus, c'est un abîme sans fond. Justement, illimité. Un abîme, un océan de souffrance. Souffrance atroce, inimaginable pour le corps, et selon Saint Jean-Paul II, dans sa lettre pour le nouveau millénaire, souffrance infiniment plus grande de l'âme, totalement à qui rien n'a été épargné. Trahison, reniement, lâcheté, mauvaise foi, calomnie, ingratitude, tout, rien ne lui a été épargné. Et puis bien plus que ça, parce que l'âme de Jésus, humaine, qui avait une connaissance humaine, mais qui était constamment informée par la connaissance divine, voyait aussi toutes les trahisons, toutes les iniquités, toute la noirceur de ce qui allait suivre, jusqu'à la fin des temps. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans les souffrances du Christ. Et cependant, il y en a quand même. Il y en a une. Et elle s'inscrit dans le temps. Comme pour tout être humain, quand Jésus meurt, les souffrances cessent. Comme pour tout être humain. Donc, il se permet donc de dire que les souffrances et la torture qu'il endurait étaient limitées. Et maintenant, je reprends la parole, enfin, avec les mots même de Jésus. « Et ainsi, dit Jésus, je ne pouvais pas leur manifester l'étendue de mon amour pour eux, puisque mon amour est sans limite, alors que la souffrance sur la croix était limitée dans le temps. J'ai donc voulu que mon cœur soit ouvert. Par là, vous connaîtriez ses secrets intimes et vous connaîtriez qu'il vous aimait bien plus que ne peut le montrer une douleur finie. » Une douleur limitée. Donc le cœur de Jésus, l'ouverture du cœur de Jésus, est comme le symbole de la surabondance et de l'inépuisable, du caractère inépuisable de ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du cœur de Jésus, ces torrents d'eau vive qui ne cesseront jamais et qui dans l'éternité feront nos délices. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alors Jésus poursuit à l'intention de Catherine de Sienne, « J'ai manifesté tout cela par la plaie de mon côté. Là, vous découvrez le secret de mon cœur. Mon cœur vous prouve mon amour beaucoup plus qu'aucune souffrance limitée ne pourrait le faire. » Donc, l'événement du cœur de Jésus, on pourrait dire que c'est une parole silencieuse, encore bien plus performante, beaucoup plus développée et surtout beaucoup plus éternelle si je puis dire, que l'épisode de la Passion, qui a effectivement connu une fin. Voilà ce que nous lègue Catherine de Sienne. Voilà ce que nous vénérons dans la chapelle des apparitions, lorsque nous contemplons le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, puis surtout source de ces torrents d'eau vive qui jaillissent de son cœur. Comme dit saint Jean, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint. Donc voilà, avec Mechthilde, Gertrude et Catherine de Sienne, nous avons balisé un petit peu ce chemin magnifique, ce chemin de feu qui nous conduira peu à peu à entrer dans cette année jubilaire en l'honneur de la canonisation il y a 100 ans de Sainte Marguerite Marie, la disciple bien-aimée du Seigneur. Nous pouvons terminer avec un refrain en chantant « Cœur de Jésus brûlant d'amour ». Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à sortir sans tarder, parce qu'il va falloir fermer les portes, et surtout, il est déjà moins 20.